Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Un cran en plus dans la montée de l'escalade en Ukraine après les bombardements de ces dernières 48 heures dans l'est du pays. Vladimir Poutine gonfle le torse ce samedi en assistant à des grandes manœuvres militaires, lancement de missiles en tout genre. Joe Biden se dit publiquement convaincu que Poutine allait envahir le pays dans les prochains jours. Sur place, les séparatistes affrontent les loyalistes. Qu'est-ce qui nous attend en Ukraine? Nous poserons la question aux grandes voix. Nous ouvrirons ensuite, comme chaque semaine, nos carnets de campagne. À gauche, Anne Hidalgo, crucifiée par Ségolène Royal, qui appelle au vote utile Jean-Luc Mélenchon. Christiane Taubira, confrontée à la réalité des chiffres, ne parvient pas à obtenir ses parrainages. À droite, changement de cap toute pour Valérie Pécresse qui change de stratégie après le meeting raté de dimanche dernier. Hier soir, bas les masques et ciao les notes. Objectif remonté dans les sondages lorsqu'Éric Zemmour, lui, se rapproche du duo de tête. Et puis le Mali, c'est fini. Fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi. Et la junte militaire au pouvoir qui demande de partir s'inédier, avançant que l'opération n'a pas été satisfaisante après 9 ans sur place. À quoi doit-on s'attendre après le départ des forces françaises? Les militaires sur place sont-ils prêts à affronter les djihadistes? Et qui sont ces mercenaires de Wagner? Explication en fin d'émission. Vous avez le programme. Les grandes voix, c'est parti. Depuis 48 heures, l'est de l'Ukraine connaît des bombardements. Alors soyons prudents, ce sont des bombardements sporadiques et pour l'heure, on les attribue plus à des forces séparatistes pro-russes en Ukraine plutôt qu'à l'armée de Vladimir Poutine. Pendant que les uns et les autres se rejettent les responsabilités, deux informations. La première, c'est que le président Poutine assiste aujourd'hui à des manœuvres militaires et lancements de missiles, un peu comme le fait régulièrement Kim Jong-un, il faut que ça tombe ce samedi. La seconde, c'est que Joe Biden dit désormais sans filtre que oui, Poutine va envahir l'Ukraine dans les prochains jours. Est-ce que Joe Biden a raison?
Écoutez, je cille comme nous tous, de samedi en samedi, sur est-ce que ça va être la guerre ou est-ce que ça ne sera pas la guerre. Ce matin, je prends ma responsabilité, j'opine, je vois plutôt se profiler la guerre, pour deux raisons. La première, vous savez, si on fait la guerre, c'est toujours parce qu'il y a un intérêt. Alors, donc, les deux raisons. Pourquoi Biden, tout d'un coup, a-t-il ce ton? D'abord parce que Biden, n'oublions pas son âge, c'est un ancien de la guerre froide. Mmh. C'est un Cold Warrior. Il a 50 ans de guerre froide dans les compteurs. Il a un bilan désastreux sur la politique intérieure aux États-Unis. Et il y a un consensus actuellement aux États-Unis sur l'idée qu'après tout, il ne faut pas laisser Poutine entrer en Ukraine. Donc, ça va vers la guerre. Ça, c'est côté américain. Côté Poutine...
On comprend presque que vous dites que ça l'arrange.
Mais ça pourrait, d'une certaine manière, ça serait un grand... Au moins, il aurait marqué un gros point. Oui. Dans 10 mois, il a des élections de mid-term qui s'annoncent catastrophiques, peut-être la perte des deux chambres et tout ça. Ça lui ferait... Pour Poutine, je crois que Poutine est arrivé à un point, il ne peut pas ressortir bredouille de cette affaire qui dure depuis des semaines. Il joue sa propre crédibilité. Il est quand même moins fort aujourd'hui qu'il y a 15 ans, Poutine, dans son propre pays. Il n'a rien obtenu depuis la Crimée dans son entreprise mondiale de grignotage et de retour à l'URSS. Donc, je pense qu'il lui faut un résultat. Donc, pourquoi pas par la guerre. Donc, voilà pourquoi ces deux raisons mises bout à bout, je pense qu'on peut aller vers la guerre.
Charles Villeneuve. C'est dur. Hein.
Non, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à un regain de tension auquel, de toute façon, les Russes n'ont pas de réponse à leurs attentes, à leurs questions. Ils veulent faire bouger les Américains au moins un peu. Or, les Américains ne bougent absolument pas. Moi, je pense que le souci de Poutine, et je le comprends, c'est qu'il est dans la position, je l'avais dit samedi dernier, des Américains en 1962, quand les Soviétiques voulaient installer des missiles nucléaires à portée de Washington, c'est-à-dire à Cuba. Ils n'en voulaient pas. Les Américains ont fait une concession aussi, d'ailleurs, par rapport, je ne sais plus comment s'appelaient les missiles qu'ils devaient installer en Turquie, donc à portée de tir, évidemment, des Russes. Et il y a eu cet échange.
C'était des Pershing.
Les Pershing, tout à fait, exactement, bravo.
Les fameux Pershing, qui nous suivent partout.
Dans ce cadre-là, est-ce que les Européens peuvent reprendre l'initiative? Évidemment, non. Parce que si les Américains ne font pas un seul geste, ce ne sont pas les Européens qui vont les décider. Or, aussi bien les Allemands que les Français, que les Polonais, puisque là, il y a eu une première, d'ailleurs, c'est que les Polonais se sont rapprochés du tandem franco-allemand. Eh bien, ça, c'est une première, parce qu'ils sont quand même très pro-OTAN, les Polonais, et très pro-américains, sur tous les plans. Eh bien, on ne peut rien faire à partir du moment où nous sommes au commandement intégré de l'OTAN, aussi bien les Français et les Allemands que les autres. Donc, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on glisse vers un conflit. C'est vrai. Et comme le disait Carrérou, c'est qu'il a besoin, compte tenu de son échec en politique intérieure, même la loi sur les minorités, il s'est fait retoquer au Congrès, etc., ce qui est un échec important sur le plan de la politique intérieure. Il ne faut pas oublier qu'on s'approche des mi-ternes, c'est-à-dire des élections à mi-mandat. Il a besoin de, en quelque sorte, s'adresser aux Américains, de les réveiller et d'avoir un résultat.
Et alors, nous avons une dépêche urgente de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit que la Russie a entrepris de saper l'architecture de sécurité européenne et mène une tentative flagrante de réécrire les règles de l'ordre international. Elle ajoute qu'une attaque de l'Ukraine pourrait coûter à la Russie un avenir prospère. Voilà ce que dit Mme von der Leyen.
Oui, alors ça, c'est ce qu'elle dit. Mais Michel justement, au fond, on s'aperçoit que si Poutine reste sur ses positions, alors qu'il est menacé de sanctions absolument terribles, c'est qu'il se fiche des sanctions.
Il y a eu un ministre russe qui l'a dit dans ces termes-là, justement, il y a quelques jours.
Pas seulement l'ambassadeur de Russie à Cuba.
Donc, je veux dire, on a un Poutine qui est absolument résolu à ne pas accepter qu'il y ait des tirs possibles de l'OTAN à côté, à 500 km de chez lui. Bon, ça, il ne bougera pas de ça. Un, deux, on a des Américains, certes, alors je ne vais pas reprendre le raisonnement sur le président américain, mais on a des Américains qui ont été évacués. Par conséquent, on se dit déjà, les Américains, ils ne participeront pas à ça. Ils ne participeront pas à une campagne terrestre. Bon. Ils participeront uniquement aux sanctions. Donc ça veut dire que c'est l'Europe qui a apporté, oui, uniquement aux sanctions, un peu sans doute améliorées par la présence de troupes ou de fausses troupes. Mais je veux dire, ce qui est terrible, c'est que ça ne fait pas bouger et ça ne peut pas faire bouger Poutine. Et donc tout le monde s'engouffre dans un souterrain sans issue. Si Poutine dit qu'il ne bouge pas et si personne fait quelque chose pour finlandiser, mettons, comme on dit, l'Ukraine, c'est sûr qu'on va arriver à une sorte de conflit et que les deux territoires pro-russes à l'est de l'Ukraine serviront effectivement de prétexte et de terrain aux premières initiatives.
Catherine.
Oui, moi je crois qu'on vit aujourd'hui une période qui est peut-être encore plus dangereuse que du temps de la guerre froide. Parce qu'on a l'impression qu'avec « t'es pas capable de faire la guerre », il y a des deux côtés comme ça. Moi, je montre mes muscles et les Biden qui s'excitent en disant « la guerre est pour tout de suite ». Or, moi, je suis... Et c'est vrai que quand il y a comme ça deux grandes puissances qui s'invectivent en mots, est-ce que des mots, on passe aux armes, étant entendu que Biden, il n'ira pas faire la guerre en Ukraine Mais ce qui se passe, c'est tout à partir du Donbass. Je veux dire, tout l'étincelle, elle peut être là. Il y a des engrenages qui peuvent s'enchaîner. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'opinion allemande, maintenant, il y a une majorité de gens qui disent si l'Ukraine était attaquée par les Russes, il faudrait réagir. Ce qui n'est pas du tout les cas en France. Mais je veux dire, vous voyez, l'opinion est en train de se bloquer contre la Russie, alors que dans cette histoire, il faut bien arriver à une paix, et c'est ce que moi je suis sûre que c'est ce que veut Poutine, mais où chacun ne perd pas la face. Et c'est très, très, très difficile. Et là, on est dans une espèce de no man's land, on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est très dangereux parce que souvent les guerres, et il y a eu des exemples, elles se déclenchent et elles partent comme ça
sur des incidents qui paraissent mineurs.
Voyez, là, en début de semaine, Vladimir Poutine a laissé son Parlement lui octroyer le droit de reconnaître l'indépendance des deux régions du Donetsk et du Lugansk qui sont dans le Donbass, les séparatistes russes. Et bien là, il n'a pas du tout utilisé de ce droit en disant non, ça serait contraire aux accords de Minsk. Donc il veut montrer aussi, il fait évidemment voter cette mesure par son Parlement, pour montrer qu'il veut qu'on vienne à la table des négociations pour négocier. Alors lui, évidemment, aussi, hein, pour négocier.
C'est ça.
Voilà, c'est
ça.
Ce qu'il veut. Alors lui, au fond, il est face à qui ? Il est face à Biden, dont il se dit, dans 2 ans, il ne sera plus là. Ça, c'est une évidence.
Et moi, je serai toujours là.
Ouais. Et, je veux dire, il est face à... le président Macron vient le voir. Très bien. Mais il dit, mais peut-être que dans 3 semaines, il ne sera plus là.
Ouais.
Et les Allemands viennent d'arriver. Ce sont encore des bleus. Ils ne connaissent absolument pas les rapports. Enfin, ils n'ont pas l'habitude de la politique étrangère. Et ils ont besoin de la Russie. Mais ils sont même dans les mains de la Russie pour le gaz. Donc, vous voyez, je veux dire, Poutine, il est quand même maître du jeu.
C'est le tsar Poutine.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a l'impression que l'Europe, face à ça, est absolument démunie. Ça va se passer sur nos territoires, enfin, en Europe en tout cas.
Et c'est l'Europe géographique.
L'OTAN,
oui, oui, oui.
Nous sommes dans l'OTAN. C'est difficile, on ne va pas en sortir comme ça maintenant.
Même si certains candidats à la présidentielle disent qu'il faut qu'on sorte du commandement intégré, comme si ça se faisait sur un claquement de doigts.
On peut dire, si on ne peut pas faire de concession à Poutine, les Américains n'en font pas, nous, on ne peut pas. Donc c'est vraiment... Et je trouve que c'est tout le problème de l'indépendance de l'Europe qui est quand même en cause. Est-ce qu'on va être sans arrêt entraîné par les Américains à des guerres qui sont guerre froide ou pas, ou en Russie ou en Chine.
Mais non, il y aura une guerre éclair. Il y aura, si on hypothèse.
Une blitzkrieg. Vous voulez qu'on parle de la blitzkrieg après la pub ? Parce qu'il faut que j'envoie une pub.
Non,
alors la pub est dans un instant. Gérard Carreau.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau, à qui je donne la parole.
Oui, d'abord, j'ai constaté que le Conseil de sécurité des grandes voix, en l'occurrence, s'est prononcé, enfin, en tout cas, dans un, plus ou moins pour l'idée qu'on va vers plutôt la guerre. Alors, s'il y a la guerre, si nous avons, malheureusement, si nous avons un peu raison, s'il y a une guerre, ça ne sera pas effectivement la Troisième Guerre mondiale. A priori, ça sera plutôt une guerre, ce qu'on appelle, ce que les techniciens appellent une blitzkrieg, une guerre extrêmement rapide, quelques jours. Pourquoi ? Parce que il y aura d'abord, ça sera une guerre éclair parce qu'il n'y aura pas de combattants américains. Ça, Biden l'a dit 3 fois en quelques jours, pas de combattants américains. Et je vois pas beaucoup d'Européens, quelles que soient les déclarations, qui sont prêts à mourir pour Kiev dans les semaines qui viennent. Et alors, il y aura du conventionnel, et il se peut qu'en 3 jours ou en 5 jours, les troupes russes soient à Kiev. Moyennant quoi, on se mettra évidemment à discuter, le pape appellera à la discussion, et on se retrouvera dans une table de discussion.
Et à propos de table de discussion, il y a en ce moment le sommet de Munich, auquel finalement Vladimir Zelensky participe, et vous avez Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui dit, voilà, si le but du Kremlin est d'avoir moins d'OTAN à ses frontières, il n'obtiendra que plus d'OTAN.
Bah lui, voilà. Il défend sa boutique, lui, le secrétaire général de l'OTAN.
Il y a un autre problème.
Je vous livre l'information, ça vient d'arriver.
Il y a un autre problème qui me paraît
Par Télex,
aussi,
comme on disait.
Dans l'Europe actuelle, très importante, c'est si il y a une guerre en Ukraine, il y a une immigration énorme qui se prépare en Ukraine, puisqu'on prévoit environ 5 millions de personnes, dont 1 million de personnes iraient en Pologne. Alors, est-ce que l'Europe d'aujourd'hui peut résister à l'Afghanistan, l'Ukraine, la Biélorussie,
l'Afrique.
C'est vraiment un vrai problème.
Et oui.
Alors on dit, l'Europe dit, ah mais on est beaucoup mieux préparé qu'en 2015, c'est qu'en 2015, il y a beaucoup de réfugiés syriens, mais bon, il y a davantage de budget, c'est vrai, il y a quelques murs, mais avouez que prévoir 5 millions d'immigrés au moment où nous parlons aujourd'hui et parallèlement à la campagne française, c'est assez intéressant à souligner et quand même personne n'a intérêt à une désertification de l'Ukraine et à une révolte en Ukraine.
Bon. Oui.
Alors si ça reste dans le Donbass, s'ils annexent une partie de l'Ukraine, à la rigueur ça va, le reste, personne n'a intérêt quand même à un passage de l'Ukraine à Moscou.
Charles Villeneuve.
Il faut rappeler l'équation de base. La plupart des pays qui faisaient partie, des pays de l'Est qui faisaient partie de l'orbite soviétique, ne font aucune confiance à Poutine et craignent de toute façon un retour de l'Empire russe, c'est-à-dire de la domination russe.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle ils se retournent vers l'OTAN. Ils veulent l'OTAN. Ils veulent intégrer l'OTAN. Or, bien évidemment, le Russe ne peut pas accepter ça, car il faut toujours rappeler qu'il y a un véritable traumatisme séculaire chez les Russes, c'est la crainte de l'invasion. Et ils l'ont subi par 4 fois dans l'histoire de manière importante, y compris des Français en 1812, y compris des Allemands en 1941, etc.
Et avant ça, les chevaliers teutoniques. Et
exactement, les chevaliers teutoniques, les Mongols, les Tartares.
N'en jetez plus.
Bon, mais là, on remonte à très loin.
Oui.
Bon. Et c'est ça qui anime, en réalité, les Russes et notamment les 4 hommes qui dirigent ce pays, parce qu'il y a très peu de gens qui, en réalité, constituent l'exécutif de Poutine. Mmh. Et notamment, dans ces gens, on retrouve quoi ? Eh bien, les gens des services secrets. C'est-à-dire ce qui est sa nature poète, oui. propre et sa formation. C'est un officier supérieur du KGB. Il ne faut jamais l'oublier. Il appuie toujours là où ça fait mal, Poutine. Toujours. C'est sa stratégie.
Catherine Ney.
Alors là, la présidente de la Commission européenne menace, une fois de plus, Moscou de sanctions.
Oui.
Mais vendredi, Poutine a dit si les sanctions seront introduites, quoi qu'il arrive, il va y avoir des sanctions, qu'il y ait une raison ou pas, ils en trouveront une, car leur but est de freiner le développement de la Russie. Or, les sanctions de l'Europe contre au moment de la Crimée et des premiers ennuis sur l'Ukraine, ben, ça aboutit à quoi ? C'est que les Russes, ils ne sont pas restés les bras ballants et ils ont distribué, ils ont développé leur agriculture. Et aujourd'hui, en raison aussi du changement climatique, eh bien c'est le premier producteur de blé, beaucoup plus que l'Ukraine. Donc ils ont développé leur agriculture. Les pommes qu'ils importaient de France, eh bien maintenant, ils les produisent eux-mêmes. Et il y a tout un secteur agricole qui s'est développé et c'est au détriment de l'Europe.
Et Michel Cotta me faisait remarquer il y a quelques semaines, et on en a à peine parlé dans la presse française, très peu parlé. Il y a eu un accord extrêmement important entre la Chine et la Russie. Mais ça, c'est incroyable parce que les gens, ils ne s'intéressent pas. Alors évidemment, on a le nez sur la campagne électorale, mais la géopolitique, ça existe. Et quand on voit la Chine telle qu'elle est aujourd'hui et la Russie telle qu'elle est aujourd'hui s'allier dans un accord important, fondamental, on se dit qu'effectivement, les sanctions auront d'autant moins d'impact, ça, s'il y en a,
quand jette Poutine dans les bras de la Chine.
Voilà.
Et on n'a pas fait attention aussi que lundi, Lavrov a dit, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il était temps de négocier et de rétablir des règles en Europe en matière de sécurité, et de cyberattaque. Parce qu'on sait aujourd'hui que les Russes sont très très forts en cyberattaque, mais les Américains aussi. Donc, et ils ont infiltré pas mal de choses en Russie. Donc c'est une guerre invisible et celle-là très dangereuse, beaucoup plus pour les populations, parce qu'on peut faire sauter les logiciels de toutes les grandes entreprises, y compris d'État en Russie, y compris couper l'électricité dans des villes. Enfin, beaucoup nuire à la population, beaucoup plus même qu'une guerre armée. Et donc, que les Russes proposent ça, ça veut dire qu'ils sont quand même ouverts à la discussion et que Biden ne comprend pas. Et lui, il passe son temps à dire qu'il va y avoir l'invasion. Or, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'invasion des Russes.
Il y a pire que Biden, je trouve qu'il y a Blinken, qui vraiment
Il est le porte-parole de Biden.
Il porte la parole très durement.
Le secrétaire d'État américain.
C'est le secrétaire d'État américain. Donc, je trouve que dans les propos sont très, très, très agressifs, beaucoup plus qu'il y a 15 jours.
Oui, mais la tonalité est la même. C'est la Maison Blanche qui parle.
On va dire qu'il
parle. Il est démocrate,
enfin,
vous savez, Michel.
La tonalité n'est pas la tonalité. Il est quand même beaucoup plus sévère du côté de Blinken, qui, en principe, est là quand même avec Lavrov pour essayer d'arranger les choses. Et moi, je trouve que quand un secrétaire d'État s'exprime comme ça, c'est quand même très, très, très
ennuyeux. C'est marrant ce que vous dites, en principe, pour arranger les choses. Mais encore une fois, après tout ce que vous avez dit, on n'a pas l'impression que Washington est là pour arranger les choses.
C'est une vision
très occidentaliste de dire pour arranger les choses.
Gérard Carrérou vient de faire une remarque très importante, c'est qu'il y a une continuité de la politique démocrate qui a toujours été anti-russe. Toujours. Bon, mais cela étant, il y a...
Et les Russes attendent Trump avec impatience.
Et Charles,
il y a une dimension positive quand même à ce débat qui, qui anime l'Europe par rapport aux Américains, par rapport aux Russes, par rapport aux Chinois, comme vous venez de le souligner, c'est que l'Europe en sort quand même plutôt unie à l'heure actuelle. On a vu que quel était le talon d'Achille de l'Europe ? C'était toujours les hésitations des sociaux-démocrates allemands. Toujours, jusqu'à présent. Or, le nouveau chancelier social-démocrate, Olaf Scholz, s'est aligné justement sur la France. Et c'est la première fois qu'il y a eu un point de vue commun, bien à Moscou qu'à Kiev.
C'est vrai qu'il a un discours plus CDU que SPD.
Et qu'à Varsovie.
C'est assez amusant.
Et c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience d'une nécessité d'unité sur le plan de la défense de l'Europe. Même si cette défense dépend très largement, de toute façon, de la puissance américaine. Parce qu'il ne faut pas rêver. Le seul pays qui a une véritable puissance militaire, ce sont les États-Unis.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier ukrainien. Les grandes voix continuent. Et dans un instant, nos carnets de campagne, à tout de suite.